Ça fait plaisir aux courageux d'être venus. Après la fête, je ne sais pas à quelle heure la musique s'est arrêtée dans votre commune. Mais merci aux courageux. Je sais qu'il y a certains parmi nous qui ne sont pas encore arrivés. Et je pense que c'est dû en bonne partie à cette fête. Je remercie en même temps l'église de Plaisieux, ceux qui ont... Voilà, les enfants peuvent aller vers vous pour l'histoire biblique. Pour ceux qui ont participé à la fête de la musique à la ville de Plaisieux, nous sommes reconnaissants aussi à la mairie de Plaisieux qui nous a donné l'occasion d'être présents pour partager l'évangile, l'amour de Dieu à ceux qui sont passés, qui ont flâné, et nous espérons que Dieu aussi bénira ces personnes et permettra que petit à petit elles parleront ou elles réfléchiront à ce Dieu qui nous aime tant. Et félicitations à Denis, à d'autres qui ont pu y participer. Nous nous préparons pour les vacances. Ce sont peut-être que vous avez déjà fait votre choix de lieu de vacances, le cocotier, la bonne paillote, au bord de la plage pour certains, le soleil surtout.
Les gâteaux.
Ah non, pas pour Patrice, tu m'as dit ça. Et puis aussi pour sinon la montagne ou l'écolo pour être ou en famille. En tout cas, c'est un moment de repos. C'est le moment aussi de changer un peu d'idée. Et pour ceux qui avaient déjà fait le plan, je vous souhaite tous et toutes de bonnes vacances. En même temps, j'aimerais aussi vous donner envie de notre lieu de repos, qui est éternel, et aussi qui est magnifique, et qui nous est décrit. Et ce matin, j'aimerais... essayez de vous esquisser quelques images de ce lieu qui sera notre lieu éternel, qui est un lieu aussi et qui est de loin le meilleur de tout et où nous sommes conviés, invités par un hôte qui a tout préparé et qui nous attend. Ce matin, donc, à nous préparer pour ce lieu, pour l'éternité, ce lieu magnifique, d'être prêt. Quand je pars pour les vacances, je suis stressé. Est-ce qu'il ne faut rien oublier? Il faut tout chambouler, il faut tout mettre dans la valise, il faut tout mettre dans la voiture et puis il faut partir à l'heure. Et je suis souvent en retard. Donc, les départs en vacances, si vous êtes comme moi, souvent, on n'aime pas les départs. On aime beaucoup les vacances. Et pour nous, j'aimerais que nous soyons tous prêts, avec douceur. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des caps. Mais quand on arrive... quand on pose ses valises, je crois que le jeu en vaudra la chandelle. Être prêt, quatre images en Apocalypse, le dernier livre de la Bible, qui bien sûr parle du ciel, parle de cette éternité, et que j'aimerais essayer de décrire pour nous, pour que nous soyons prêts et que nous puissions y entrer avec grâce. Quatre images. En Apocalypse, chapitre 21 et 22, chapitre 21, la Bible nous dit « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix, forte voix, qui disait : voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Dieu fait tout. On voit descendre du ciel cette ville, l'habitation de Dieu, le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et dans ce lieu qui refera tout à neuf, il sera ni deuil, ni larmes, car les premières choses sont passées. Qui parmi nous a déjà appris à rouler au skate, à part Mathias? Pas beaucoup. Peut-être Eric et peut-être Muriel, sans doute. Ils sont des sportifs. Qui parmi nous s'est roulé à vélo? Oui. Qui est déjà tombé? Vous vous êtes relevé et vous savez toujours rouler à vélo. C'est pratique. C'est sportif, ça détend. C'est agréable. Tomber, ça fait de mal, mais on se relève. On l'oublie. Mais on sait rouler. Dieu dit qu'elle essuiera les larmes et que les premières choses seront passées. Il sait nos larmes. Mais il sait aussi comment faire de ces larmes une préparation éternelle. Il sait ne pas les gaspiller, mais en profiter par son esprit pour nous conduire, pour forger un caractère qui sera éternel. Il ne gaspille pas ses larmes. Au contraire, il est en train, de par vos frustrations, de par vos épreuves, et parfois on se sent bien serré, bien mis à l'épreuve. Mais c'est Dieu qui dit qu'il apprendra, il fera de par ses épreuves une beauté resplendissante en vous qui est digne du ciel. Quand on considère parfois l'effort des nageurs qui vont se préparer d'ici quelques semaines pour une couronne, pour une médaille d'or ou de bronze ou d'argent. Ils se donnent de l'effort pour cette médaille afin de remporter la victoire. Ça coûte, il y a une certaine souffrance. Dieu est encore plus généreux que les jeux, les organisateurs des jeux. Il est Dieu, celui qui est grand, qui aime, qui est donné par le Christ, notre pardon, qui nous invite aussi que quand nous passons par les épreuves, à ne pas baisser les bras, ne pas nous décourager. Mais de nous fortifier, parce que Dieu est dans cette épreuve. Comme le nageur qui tire et qui nage 5 heures par semaine, par jour, pour se préparer pour les Jeux. De même, Dieu aussi, il est là comme un entraîneur, comme un coach, mais aussi par sa présence, par son esprit, pour fortifier, pour nous aider. Il est écrit donc, je fais toutes choses nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, la Bible dit, Dieu fait tout nouveau dans nos vies. Quand on donne sa vie à Christ, il commence par son esprit à ôter les anciennes choses qui encombrent et pour nous donner de nouvelles choses, de nouvelles forces, une nouvelle orientation. Une certaine liberté pour marcher, pour comprendre, pour vivre, pour aimer, pour persévérer. Il fait de nouveau notre vie. Il a fait de nouveau pour qu'on soit prêt, pour que là où il y avait irritation, là où il y avait des choses qui étaient moins jolies, il change, il façonne pour qu'on soit comme le Christ, qu'on soit prêt pour l'éternité. Et puis, une fois que l'œuvre est faite, cette beauté resplendissante est faite dans nos vies, il ôte ces anciennes choses. Les larmes, les deuils, on ne les verra plus. Et ce qui reste, c'est la beauté de ce caractère qui a été travaillé, cette pureté précieuse aux yeux de Dieu, et combien aussi utile les uns pour les autres. Et ça s'appelle la maturation, ça s'appelle cette transformation spirituelle et émotionnelle que le Christ opère en chacun d'eux. Il nous prépare, il nous console, et puis il enlève ces anciennes choses. Elles ne reviennent que des anciens souvenirs, et ce qui reste est un caractère précieux aux yeux de Dieu, digne pour l'éternité, où aussi il peut nous accueillir, comme il dit largement en 1 Pierre, 2 Pierre chapitre 1. Largement, une ouverture, une entrée nous sera préparée, parce qu'on s'y travaille, parce qu'on permet que Dieu travaille. Et parmi ses outils, la Bible, l'Esprit, mais aussi ses difficultés. Je refais tout de nouveau. C'est ce qu'il fait, et puis de deux, dans les versets qui suivent, les versets 6 à 8, il nous dit qu'il nous offre des promesses extraordinaires. Pas seulement Dieu, il travaille autour de nous pour agir en nous, dans notre caractère, mais aussi il travaille par son esprit en nous. Je refais tout de nouveau, et puis au verset 6, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, le part sera dans les temps brûlants du feu et du soufre. Cela, c'est la seconde mort. Dieu travaille, il est présent, et il veut que de par ses difficultés, il fasse des vainqueurs. Ceux qui fassent aux épreuves et aux difficultés connaissent ce Dieu qui se dit notre Dieu, qui dit qu'il donnera une source de l'eau de la vie, comme a dit le Christ, qui jaillit de notre être intérieur jusqu'à l'éternité. Par son esprit, par sa présence. Dieu fait, il agit, mais aussi il se donne personnellement, par son esprit, ce cadeau le plus précieux. Luc, Jésus avait dit dans l'évangile de Luc, chapitre 18, l'histoire d'une juge, une femme veuve, qui devait frapper pour demander, et son interlocuteur n'entendait pas. C'était un juge qui avait le cœur dur, les oreilles sourdes, qui ne lui prêtaient pas d'attention, c'était quand même qu'une petite veuve, une petite femme. Et Christ a dit que Dieu, il fera, prêtera attention à nous quand nous demandons, et qu'il nous donnera d'autant plus si le Père, si nous qui sommes méchants et mauvais, donnons de quoi manger nos enfants, nous ne donnons pas des pierres ou des scorpions, nous donnons vraiment de bonnes choses. Combien de plus Dieu exaucera-t-il nos prières et nous donnera-t-il le Saint-Esprit? Évidemment, pour Jésus, pour le Christ, un des cadeaux le meilleur était cet Esprit, la présence de Dieu dans nos vies, qui nous permet de marcher, d'avoir cette vie épanouie, remplie, abondante, qui même dans le désert, même dans les épreuves, ne se flétrit pas. Ne tarit pas. La présence de Dieu lui-même Au vainqueur, je serai son Dieu, il sera mon fils. C'est une offre, une promesse extraordinaire de la part de Dieu de nous accompagner, de nous préparer pour être avec nous, pour nous guider jusqu'à l'éternité. Quand j'étais au Tchad, deux de mes collègues étaient partis en brousse. Il faisait extrêmement chaud, ils avaient roulé, ils étaient assoiffés. Ils avaient vu un petit ruisseau, un petit flaque d'eau qui était à bord, au bord de la route. Ils sont descendus de la voiture et contre le bon sens, puisque le ruisseau ne coulait pas. C'était une petite flaque. Ils ont plongé leurs mains dans l'eau qui n'était pas très pure et ils ont commencé à s'abreuver. Et les effets ne s'attardaient pas. Ils commençaient à avoir cette douleur qui était extrêmement pénible pendant 2-3 jours. Et on n'a pas pu s'empêcher de rire parce que celui qui s'était jeté sur l'eau est né au Tchad, était un collègue. Et il savait, il connaissait le terrain, mais il avait tellement soif qu'il s'était jeté sur ce flaque d'eau. Et parfois, dans la vie, on côtoie la route et on se dit, je vais m'arrêter pour m'abreuver à la télé un peu. Ça va m'apaiser la soif. Ou encore, on va s'abreuver pour des distractions qui ne sont pas utiles ou qui sont malsaines ou qui destructrices. Et c'est vrai que ça abreuve la soif pour un temps. Mais après, ça danse, ça tangue dans notre esprit. Et on fera mieux de nous abreuver à ce que Dieu nous donne, ce qui est pur, cette eau qui désaltère et qui jaillit de l'être intérieur. C'est le Christ, c'est sa présence. À celui qui vainque ses tentations, ses difficultés, ses épreuves, au lieu de lâcher les bras, on se tourne vers Dieu qui fait cette promesse extraordinaire à celui qui a soif. Je donnerai. À celui qui vainque, je serai. Je lui donnerai comme héritage. Et nous qui le connaissons, cet héritage et cette expérience commence déjà dans nos vies, dans nos cœurs. Nous expérimentons déjà la présence de Dieu et celui qui nous aide et qui nous porte quand nous sommes trop fatigués. Celui qui délivre quand nous sommes tombés. Celui qui nous remet debout quand nous avons genoux à terre. Acceptons cette promesse et écoutons ces choses magnifiques. La personne de Dieu lui-même. Quand j'avais 13 ans, j'avais voulu jouer dans une équipe de football américain. J'étais mince et léger, mais tous les copains, c'était la chose de faire. Donc, j'ai joué. Or, à 13 ans, on n'est pas encore très costaud. Il y avait le capitaine de l'équipe qui portait la balle et qui courait et qui jouait pour encore quelques centimètres pour avancer. Il avait 2 ou 3 défenseurs qu'il avait déjà attrapés par les épaules ou par la taille ou encore par le pied. Et il tirait encore. Et moi, j'ai sauté sur la mêlée, je les ai tout fait tomber. Bien que j'ai été un poids plus à l'époque, encore pas très bon. Et le capitaine m'a dit, il s'est relevé, il s'est retourné vers moi, il m'a dit, Bob, tu ne fais plus jamais cela. Le capitaine était le capitaine parce que c'était quelqu'un qui voulait avancer. Malgré le fait qu'il a eu sur lui des attaquants, les défenseurs qui menaçaient et qui voulaient le faire tomber. Et Dieu, quelque part, il sait qu'il y a dans nos vies des moments où on se sent que j'en ai un au pied, une autre taille, à l'autre autour de mon cou, et on a des choix. Et Dieu nous dit, au vainqueur, je lui donnerai l'héritage. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, ils n'auront pas part. Parce que c'est le ciel, c'est le lieu de Dieu, puissant, infini, saint. Fortifions-nous donc, frères et sœurs, à nous relever, à nous fortifier dans cette mêlée, parce que nous avons un ami fidèle et tendre qui nous suit dans la mêlée, qui nous fortifie, et c'est lui qui nous porte, c'est lui qui nous défend, c'est lui qui nous fortifie. Le résultat de ce que Dieu fait quand nous lui permettons d'agir dans nos vies pour retaper, pour refaire, quand nous persévérons, quand nous comptons sur sa force pour nous porter, pour guérir, pour agir, les résultats sont éclatants dans nos vies, magnifiques, d'une certaine splendeur, digne de Dieu, digne pour le ciel, digne d'être un disciple de Jésus-Christ, de porter son nom. Il est écrit dans les versets 9 à 27. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transportera en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montrera la ville sainte, Jérusalem, qui descendit du ciel, de près de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du ciel, du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges. Des noms étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Voilà. Et puis, il reprend cet éclat dans les versets qui suivent. Verset 18. La muraille était construite en jaspe. La ville était d'or pur, semblable à du verre pur. C'est un lieu magnifique. Et je crois qu'en grande partie, c'est nous qui serons ce lieu. Je ne sais pas comment comprendre cette image, à quel point c'est figuré, imagé, allégorique, et à quel point c'est littéral. Je ne sais pas. Mais nous savons au moins que c'est magnifique, pur, éclatant, décrit avec ce qui est de plus riche, de plus merveilleux dans ce monde. Et quelque part, ce lieu nous attend, et aussi c'est ce lieu où Dieu lui-même agira en nous, de nous rendre éclatants. Et je crois que d'une part, c'est à travers les souffrances où Dieu va construire, quand il y a des difficultés, la persévérance. Quand il n'y a pas d'issue, il va construire la foi parce qu'on ne voit pas. Quand on est abattu, l'espérance. Parce que c'est un Dieu qui délivre, qui ne laisse pas tomber. Et ce sont des qualités éclatantes dans ce monde. Et quand on enlève tout ce qui est charnel, tout ce qui les retient, et on les voit ensemble devant ce Dieu, avec le Christ, avec ses anges, et dans ce lieu parfait, je crois que ce serait un lieu merveilleux, éclatant, avec ce Dieu. Pur, avec une muraille qui est grande et haute, pour qu'il n'y ait que ce qui est digne du ciel, bâti sur ce qui est fait en bas, les fondements des 12 apôtres, et puis paré comme une épouse pour son époux. Quand je suis parti aux États-Unis pour l'enterrement de mon père, j'ai communiqué avec Véro par email. J'ai fait le tour des magasins. Il fallait que le devoir quand le mari part, c'est qu'on ramène dans le langage des expressions d'amour, bien que ça ne soit pas son premier langage, un cadeau. Or, je suis allé au marché, au magasin. Je ne suis pas très rodé dans les choses pour les achats pour les robes. Mais j'aventurier, et donc au cœur, j'avais ma chair qui tombe. Et donc, je fais toutes les choses, les qualités, je fais une boutique, je fais une autre. J'ai pris une photo avec l'appareil photo numérique, j'envoie, Véro me dit, ben, celle-là, elle me plaît, donc tu peux l'acheter. Donc, je l'achète, je la ramène pour qu'elle porte, pour qu'elle soit aussi jolie et contente, que je ne l'oublie pas. Mais le Christ, qui nous aime, nous sommes son épouse, lui qui a donné son sang, lui qui a payé pour nous, il veut aussi nous rendre éclatants, purs, dignes, à préparer pour l'éternité. Et donc, il envoie aussi des occasions pour que nous-mêmes nous soyons à la hauteur, pour nous parer de bonnes œuvres. Il travaille en nous, il transforme nos caractères, et à l'issue, il veut aussi nous donner des occasions pour servir, pour lui montrer sa beauté, sa splendeur, sa grandeur, sa patience, son amour autour de nous. Et il nous parle de bonnes œuvres. Et la Bible nous dit que ces bonnes œuvres vont nous suivre. Et il nous prépare comme un bien-aimé pour son épouse, pour qu'en arrivant là-haut, nous soyons vraiment prêts. Nous soyons prêts pour vivre et pour le suivre pour l'éternité. Encore, cette caution qui nous est mentionnée, cet investissement, il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, au mensonge, mais là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Le Christ veut pour lui-même une épouse qui est éclatante de par notre pureté, de par nos œuvres, de par notre caractère, pour être avec lui pour cette célébration et pour l'éternité. Et finalement, nous lisons dans le chapitre 22 pour terminer que nous participerons à une sorte de régénération, à une sorte de vie qui se passe dans tout aspect, dans tout être de notre vie, et qui se donne et qui se vit complètement, et qui se partage comme les fruits d'un fruit, d'un abrier, d'un arbre fruitier, qui donne son fruit chaque mois. Chapitre 22, et le verset 1 à 5. Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui est sorti du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, son nom sera sur le front. La nuit ne sera plus, il n'y aura plus ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Dans cette ville, au centre, se trouve une fleuve qui coule, et sur les deux bords, il y a les arbres de vie qui poussent, et qui donne le fruit chaque mois. Une récolte abondante, où il y a de la vie, une surabondance de vie de ces arbres. Encore une image, mais une façon de nous dire que là-haut, ça va être merveilleux, une occasion où il n'y a que de la vie qui est tellement abondante que ça, sur les deux bords du fleuve, et dans la grande place, au centre-ville, ces arbres poussent et donnent le fruit, une fruit abondant, et chaque mois, ce fruit se nous révèle. Image de dire que ça va être débordant de vie. À un tel point qu'il y a encore les nations qui vont goûter de ce fruit et qui sont guéries. Et quand nous entendons à 13h et à 20h, les difficultés et les épreuves. Nous pouvons intercéder, nous pouvons prier, nous pouvons parfois compatir et donner, parfois aider. Mais quelque part, nous croyons aussi que Dieu guérira. Il dit qu'il guérira complètement toutes les nations. Sous-entendu, ceux qui croient, ceux qui seront en haut, ceux qui seront recueillis, ceux qui se purifient pour cette occasion. Il n'y aura plus d'anathème et ses serviteurs. Qu'allons-nous faire? Parfois, on me dit, je ne sais pas si je veux vraiment y aller parce que, tu sais, jouer de la harpe et puis m'asseoir sur une noix, je ne me dis rien, ça va, je vais m'ennuyer. Les gens disent. Alors, regardons. Tout n'est pas dit, tu n'es pas encore révélé, mais c'est écrit dans le verset 4. Ses serviteurs le verront, le serviront. Ils verront sa face et son nom sera sur le front. Et puis au verset, ils régneront au verset 5, au siècle des siècles. D'abord, ils le serviront. Ceux qui ont l'occasion de servir Dieu, parmi nous, d'accueillir, et le Christ a dit même de donner un verre d'eau froide à un serviteur. Au nom de Christ, il ne va pas perdre sa récompense. Ceux qui ont l'occasion d'éduquer les enfants ou d'aimer, d'accueillir, d'offrir l'hospitalité ou de prier pour un frère ou une sœur, de passer un coup de fil à quelqu'un qui est découragé, de se promener avec eux, de rendre service, d'apporter la parole, d'enseigner, de conduire la louange. Ce sont, pour ceux qui servent, des occasions merveilleuses qui bâtissent dans nos vies et qui nous donnent un fond pour quoi vivre. Parce que nous accomplissons ce pour quoi Dieu nous a créés. Et nous avons tous ces dons, un don pour servir, à les exercer, à nous en servir. Et pour nous, pour l'éternité, nous aurons encore ces occasions pour servir. Servir n'est pas ennuyeux. Je ne pense pas. Servir est parfois, n'est pas non plus toujours une corvée. Il y a parfois des difficultés. Et parfois, on peut un peu donner un petit coup de pouce pour servir, pour agir. Mais quand, au fil des années, au fil des jours, ce sont des occasions qui restent, qui marquent, parce qu'avec son temps, son énergie, sa force, son talent, son argent, on a servi, on a bâti, on a construit dans la vie des uns et des autres. Et je crois que quelque part, qu'on arrive encore vers le ciel, Dieu nous dit, je donnerai encore les occasions pour servir. D'ailleurs, il a dit, avant de revenir à Matthieu 25, le Christ va apprécier les œuvres, il va dire, bien fait, serviteur, fidèle et bon, entre dans la joie de ton maître. Et celui qui est fidèle en peu, il a dit, je le rendrai fidèle en beaucoup. Je lui donnerai encore plus d'occasions, plus à faire. Et quelque part, peut-être si on peut comprendre, c'est dans notre stage ici-bas, nous nous préparons pour notre éternité. Et que les tâches que Dieu nous donne à faire ou à servir ou pour porter du fruit, que Dieu nous donne à cœur libre et joyeux pour servir. Parce que je pense vraiment que ce sont des occasions merveilleuses ici-bas pour que notre vie soit remplie et abondante. Nous ne servons pas un homme. Nous ne servons pas une idée. Nous servons le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Nous servons le Dieu éternel. Et celui, si on comprend, il récompense selon qui il est. On a tout intérêt donc de le servir. De deux, ils verront sa face. Moïse qui était dans le désert, il était découragé par les événements, les circonstances qui ne sont pas allées toujours dans ce sens. Parfois, il y avait des contre-pieds, des difficultés. Il a dit, Seigneur, je veux simplement voir ta face. Encourage-moi un peu. Sois présent. C'est un peu lourd ici. Et dans cette face à face, Dieu a dit, cache-toi dans le rocher parce que tu ne peux pas voir ma face. Mais après que je serai passé, tu verras. D'une forme, tu verras que je suis avec toi. Et le Christ, quelque part, on nous donne cette occasion par les yeux de nos cœurs de voir sa face. De faire cette tête-à-tête chaque jour où on s'écarte un peu, on se tourne vers lui, on lui prie, on écoute sa parole, ou ensemble, où on cherche à l'adorer, à l'écouter. Mais quelque part, un jour, de par la foi, nous vivons, nous voyons, mais un jour, nous le verrons. Celui qui nous aime tant. Celui qui a donné son sang pour payer notre éternité. Et je crois qu'il sera magnifique. Parce que quand je lis dans ses paroles et quand j'entends ses actions parmi les personnes, dans les écrits et dans nos vies, et quand nous serons en face de lui, je crois qu'on aura vraiment une belle occasion de l'adorer, de le remercier. De l'aimer. Nous verrons sa face et finalement nous régnerons avec lui au siècle des siècles. Là, je ne sais pas trop ce que ça pourrait comprendre, seulement que quelque part le Christ inclut. Il nous inclut. Il est sur le trône avec son Père, mais quelque part il nous promet de servir, comme il a dit, et de régner. Et les deux vont de pair, parce que celui qui sert, il permet que le Christ règne. Et celui qui règne ou sert doit porter l'amour, la bonté, la joie, où il y a désespoir, ou là où il y a ténèbres, où il y a haine ou découragement. On sert. Et on vainc le mal par le bien, on règne, mais quelque part, les deux vont de pair. Et nous régnerons. Je ne comprends pas plus que cela. Seulement que nous y serons. Ce sont les paroles certaines et véritables, ce qu'a dit la Bible, au verset 6 et 7. Heureux celui qui garde ces paroles. Heureux, chapitre 1, ceux qui ouvrent ce livre pour comprendre ces choses. Parce que ces choses nous disent que parfois il y aura des difficultés. Mais les choses nous disent aussi qu'on peut les vaincre. Parce que Dieu les a déjà vaincus. Et aussi parce que Dieu nous prépare un lieu éternel. Invitons le Christ dans nos vies à nous refaire complètement de nouveau. Accrochons-nous à Dieu, à sa présence, pour que lui-même il vainque pour nous. Il fasse en nous, quelle que soit la difficulté. Je sais, je ne veux pas minimiser les difficultés par où on peut passer. Mais je veux simplement nous plaidoyer que nous ne gardions pas que les yeux sur les difficultés. Parce que tout passera. Tout. Les premières choses passeront. Et vous serez restés avec Dieu, avec les fruits de ce que Dieu veut faire en vous. Fortifions-nous donc. Purifions-nous, préparons-nous pour des œuvres bonnes, pour entrer dans sa présence, étant parés, préparés, pour l'aimer, pour lui rendre, et aussi, puis finalement, à participer à un fruit, une vie fructueuse, déjà ici-bas, mais qui continue pour l'éternité. Les dernières paroles de ce livre, l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif dise « Vienne ». Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Verset 20. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Parce que quand le Christ vient, pas le temps pas le temps de fermer la valise. Pas le temps de prendre les clés, de fermer la maison. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous.
Vous invite à prier.